franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les prédictions d'Einstein sur le temps avec Pierre Spagnoux au micro de Daniel Fiévé.
Ce qu'Einstein prédit dès 1905, c'est précisément que si on a deux horloges situées au même endroit et que l'on fait parcourir à l'une d'entre elles une courbe fermée quelconque et qu'on la ramène auprès de l'autre horloge, on constatera en général un décalage entre ces deux horloges.
On laisse une horloge sur Terre, une autre part dans un avion, fait le tour de la Terre, au moment où on compare ces deux horloges, alors qu'elles sont parfaites, elles ne peuvent pas dévier d'une seconde, elles ne sont plus à la même heure.
Exactement.
Donc, elles n'ont pas vécu le même temps.
Tout à fait. Et ce qui est très incompréhensible pour un Newtonien, c'est pour ça que c'est important de le dire, c'est que justement, donc on suppose qu'elles ont un rythme identique, elles sont parfaitement synchronisées au départ, qu'elles ne se dérèglent pas. Donc il n'y a pas le dérèglement n'est pas là du tout en cause. Eh bien, on va constater un décalage. Et cela veut dire que justement, elles ont chacune mesuré fidèlement un temps propre différent.
C'est la même chose pour des jumeaux. Deux jumeaux qui ont le même âge, ils ne voyagent pas dans le même vaisseau, ils n'auront pas le même âge à l'arrivée.
Exactement, puisque l'effet, c'est bien celui-là, c'est-à-dire que leurs horloges respectives ne vont pas compter le même nombre de secondes, donc ils vont se retrouver avec un âge différent à leur point de rencontre.
Mais alors nous, sur Terre, qui ne prenons pas les mêmes trains, les mêmes avions, les mêmes bateaux, qui ne marchons pas au même rythme, est-ce que pour nous aussi, nos temps propres se décalent légèrement les uns par rapport aux autres?
Voilà, donc il faut bien voir que cet effet, il est omniprésent, c'est-à-dire que dès que nous nous déplaçons, selon nos trajectoires respectives, nous nous désynchronisons. Simplement, l'effet, il est tellement faible à notre échelle de vie que, en fait, on n'en a pas la perception. Mais l'effet est bien là, est bien réel. Et par contre, on doit déjà en tenir compte pour certaines applications pratiques.
Mardi, les procès d'animaux au Moyen-Âge avec Jean-Philippe Noël et Eric Baratet.
Beaucoup, beaucoup d'animaux ont été jugés. Les porcs sont les plus classiques et les plus connus. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient vraiment au milieu des hommes et je pense que aussi ils pouvaient se montrer très meurtriers. Et en tout cas, c'est le cas de la fameuse truite falaise qui a eu droit à un procès en bonne et due forme puisqu'elle avait dévoré dans une cour de ferme un gamin de
3 mois.
Douillet, un enfant de 3 mois. Ouais. Et donc elle a été capturée, jugée avec avocat. Elle a été jugée coupable et donc elle a subi les tortures qu'elle avait elle-même infligées
à ce bébé.
Ouais. En même temps, elle a été très humanisée, c'est-à-dire qu'en fait, on l'avait habillée, elle portait un masque et elle portait des gants. Et elle a été complètement... Donc un masque parce qu'en fait, elle avait dévoré un peu le visage de l'enfant et on lui a fait subir les mêmes...
On lui a coupé le groin.
On lui a coupé le groin.
En l'occurrence.
On lui a mis un couteau dans la jambe parce qu'elle avait dévoré la jambe, etc. etc.
Avant de la pendre.
Elle a été pendue et puis ensuite, elle a été traînée par un cheval. Et c'est vrai qu'effectivement, on retrouve beaucoup de procès de porcs. Mais on trouve aussi d'autres procès, et dans le bouquin, je parle entre autres des procès qu'on a fait aux sangsues qui étaient devenues trop nombreuses dans un étang. Et alors, ce sont des procès religieux et à qui on demandait de partir sous peine d'être excommuniés. Oui. Ça n'a pas marché.
Oui, on s'imagine.
Mais il faut imaginer que quand même, il y a eu un véritable procès avec un juge et des avocats et qu'on a amené 3-4 sangsues dans un bocal ou dans un verre, à qui qu'on a remis ensuite dans les temps en leur disant « Allez porter la bonne nouvelle, dites qu'il faut que vous partiez parce que sinon vous allez être excommuniés.
Ouais. »
Ça n'a pas fonctionné très bien. Mais en même temps, ces procès ont duré des années.
Éric Barrettet, c'est étonnant quand même parce qu'on voit ce statut au fond de l'animal qui varie et qui est presque ambigu aussi au fil de l'histoire quand même.
C'est la tentation des 14e, 15e siècles de prendre les animaux pour des personnalités et de les intégrer. Alors par exemple, les procès d'excommunication, on les voit naître effectivement, comme vous l'avez dit, au 14e siècle. On en voit encore en France jusqu'au 18e siècle dans la région de Besançon. Et il y a l'idée évidemment que ces animaux, si on les menace d'excommunication, c'est qu'ils font partie de l'Église. L'Église au sens large, c'est-à-dire la communauté des créatures de Dieu.
Absolument.
Et évidemment, cette liaison-là va être ensuite abandonnée à partir du XVIIe siècle avec tous les faits du cartésianisme, où là, au contraire, on va passer les animaux du côté des objets.
Mercredi, le rôle des grands-parents aujourd'hui, avec Patrick Avran et Martine Segalen.
C'est-à-dire que les grands-parents, ils ont fait le boulot. Ils ont élevé leurs enfants et ils ont plus en charge l'éducation de leurs petits-enfants. Donc, il reste le reste. Le meilleur ou pas le meilleur, mais en tout cas, ils n'ont plus cette nécessité d'être ceux qui disent « Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, c'est l'heure d'aller prendre ton bain ou d'aller te coucher. » Ils ont donc le reste. Et le reste, c'est quoi ? C'est tout ce que les parents n'ont parfois pas le temps de dire à leurs enfants. l'histoire, mais pas uniquement, les grandes réflexions sur le sens de la vie en fonction de l'âge de chacun. Et c'est donc parce qu'ils sont effectivement débarrassés de ce qui peut être entendu comme les contraintes de l'élevage.
Oui. Sauf que Martine Segalen, certains grands-parents s'octroient le droit encore d'éduquer finalement même leurs petits-enfants. Hein. Tout n'est pas si délimité que cela. Enfin, hein.
Tout dépend, si vous voulez. Et ce qu'il faut voir dans la situation contemporaine, c'est que les générations, c'est-à-dire que ceux qui sont les grands-parents maintenant, qui ont 50 ans, 60 ans, ça a été la première génération de la modernisation, du divorce des femmes au travail, de la libération des femmes. Et je pense qu'ils partagent beaucoup de valeurs avec la génération des parents qui sont les trentenaires. Ce qui n'était pas le cas si on remonte deux générations en arrière où il y avait des vraies différences. Donc, on peut imaginer que les grands-parents ne sont pas en contradiction avec l'éducation qu'ils veulent donner, aux normes qu'ils voudraient donner à leurs petits-enfants. D'autre part, là, j'entendais dans votre interview, hein, on passe des vacances en famille avec les parents et les petits-enfants. Ça, je crois que c'est pas une bonne chose, de mon expérience.
Ah
en
bon
tout cas, c'est beaucoup mieux d'être grand-parent tout seul avec les petits-enfants.
Ah ben oui,
pour
bien
que
sûr.
Justement, il n'y ait pas d'interférence dans les façons de voir, où quelquefois les parents sont au contraire ceux qui sont les plus stricts et les grands-parents ceux qui sont le moins, si vous voulez. Et puis, j'ajouterais une chose, c'est que les grands-parents ont la possibilité de dire non, d'abord. Quand vous êtes parent, vous pouvez pas dire non, je m'en occupe pas. Ils peuvent dire non, c'est leur droit. Ou ils peuvent dire, je fais une part dans ma vie et je suis pas corvéable à merci.
Oui.
Vous voyez, l'attitude des grands-parents est très différente. Certains sont très engagés et en sont très heureux. D'autres organisent leur vie en fonction d'autres intérêts aussi.
Jeudi, les cactus, des plantes grasses fascinantes avec Fabrice Fenoulière.
Parfois, on se dit, tiens, je suis dans le désert, je suis un peu perdu, j'ai un cactus, je vais pouvoir l'ouvrir et boire comme une noix de coco. Et en réalité, c'est pas ça, hein, je réponds un peu à votre question. Il y a effectivement une pulpe, il faudra avec un caillou pouvoir la malaxer, hein, et avec une petite paille pouvoir avoir un petit peu de liquide comme ça. Donc, c'est surtout des tissus hein, qui retiennent cette eau-là. Il y a du bois aussi dans les cactus. Hein.
Ah bon ?
Et quand vous aviez dit en début d'émission qu'effectivement, qu'un cactus pouvait atteindre 20 mètres de hauteur, il faut qu'il se tienne bien
c'est
debout.
Sa structure, donc, qui est
et il y a du bois aussi, dont on fait des meubles, dont on peut faire des charpentes du côté de l'Amérique du Sud. Oui, il y a aussi, selon la variété, on parlait avec Yann de globulaires, il y en a parfois moins, mais les colonnaires qui vont très haut, il y a du bois, comme toutes les plantes.
Mais on peut parler d'un tronc de cactus.
On pourrait parler d'une tige lignifiée.
Hein. Ouais.
Ce qui est aussi fascinant, et pour ma part, qui m'a amené à m'intéresser à ce type de végétal, c'est l'envie de s'en sortir de ces plantes. C'est-à-dire, la nature les a fait naître dans les endroits les plus complexes, alors de jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Hein, on se dit toujours le désert, c'est 4000 mètres d'altitude. Il y en a qui ont les pieds dans la neige. Hein, il y a des cactus au Canada, de type Opuntia, on en parlait, hein, une variété de figuier de Barbarie, qui a régulièrement les pieds dans la neige. Ça ne le gêne pas trop. Il peut descendre à moins 30, il s'en sort. Et donc, ce qui me fascine, c'est ces aventuriers de l'extrême. Ces stratégies, Yann en parlait, fabuleuses. Des racines qui peuvent descendre très profondes, mais on en parlait, superficielles également, des racines en forme de bonbonnes, des stomates hein, qui permettent d'échanger les gaz, hein, qui sont beaucoup moins nombreux que sur les autres plantes, qui s'ouvrent la nuit pour pas perdre trop d'eau et pas la journée comme les autres le font, une tige en accordéon pour absorber de l'eau, comme un accordéon s'ouvrirait en période un peu plus compliquée, rentrer le ventre, resserrer ses côtes et s'en sortir malgré tout, même s'il n'y a plus une goutte d'eau en milieu aride notamment pendant longtemps, ces feuilles qui sont devenues des épines, hein, atrophiées finalement, végétalement, on est encore dans cela. Ces poils qui capturent l'humidité pour les faire rentrer un petit peu à travers d'autres pores dans la tige, ça c'est fabuleux, absolument fabuleux.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.